Tout vient à point, qui sait attendre? C'est l'heure des démons du midi.
Cette première édition des Démons du Midi, la nouvelle émission de Radio01.net où on va vous parler de musique de jeux vidéo, on va surtout en écouter. Moi c'est Pipo Mantis, je suis ici avec Gotos. Gotos, comment ça va?
Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis super content d'être là, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire cette émission, ça fait quasiment un an qu'on en parle. On peut enfin le faire sur Radio01, donc je suis super content. Et puis j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça va se passer.
Tu le sais, mais pour la licence poétique, on va dire que c'est comme ça. On va avoir de l'actu au début, donc chacun va venir avec un morceau d'un jeu auquel il a joué dernièrement. Un truc qui t'a tapé dans l'oreille. Pas forcément d'ailleurs un truc qui est sorti récemment, hein, c'est juste que nous on y a joué dernièrement et tiens, ce morceau il est cool. Et ensuite il y aura un plus gros morceau, qui sera le gros morceau de l'émission, où il y aura juste plein de morceaux dans tous les sens. Des trucs qu'on a envie de partager, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis il y aura aussi les fois où on fera un petit peu moins de fourre-tout, du plus thématique. On a déjà pensé à des thématiques sur des consoles, des sagas, éventuellement des époques. On a plein de trucs dans les cartons, on verra comment ça va se passer, mais on va commencer en faisant vraiment du fourre-tout pour se mettre en jambes.
Et donc pour cette première tournée d'actu, c'est moi qui vais commencer avec DuckTales Remastered, hein, le remake de la bande à Picsou qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Steam, PS3, Xbox 360 et j'en passe. Et c'est le thème du niveau de l'Amazonie qui est ici réarrangé par Jake Kaufman, que vous connaissez plus sur le nom de Vert. On écoute ça et puis on en discute un peu après. Et je vous rappelle que le morceau c'est The Amazon, hein, sur DuckTales Remastered par donc Jake Kaufman, plus connu sous le nom de Vert. Alors Vert, vous connaissez peut-être parce que c'est un compositeur chiptune assez connu et super bon surtout. Il a plusieurs albums originaux à son actif, dont FX4, dont je vous conseille l'écoute, qui est extraordinaire. Et sinon, c'est tout simplement le compositeur attitré de WayForward, des développeurs qui font énormément de remakes, dont ce DuckTales. Et il a aussi fait du Double Dragon Néon, Mighty Switch Force chez eux aussi, et 2-3 autres trucs bien bien violents, donc je vous conseille beaucoup de l'écouter.
Et je trouve assez intéressant d'ailleurs que tu sois pas venu avec le Moon Theme, parce que j'imagine que c'est plus ou moins tout ce que tout le monde attendait si on allait parler de musique de jeux vidéo et de DuckTales. Et tu viens avec Amazon, et c'est rigolo parce que tu me disais, en préparant l'émission, que la limite d'Henry Mastered, il est plus iconique que Moon, en fait.
Bah en fait, le Moon Theme, il était tellement attendu que tu pouvais être que déçu, finalement, par la reprise. Ouais, et effectivement, ouais. Il a fait une reprise synthé un petit peu molle et un peu moins épique que ce qu'on attendait. Et du coup, c'est sur The Amazon, et un ou deux autres morceaux d'ailleurs, mais surtout The Amazon, qu'on retrouve une qualité, un truc, on retrouve la joie de vivre qu'il y avait dans le jeu original. Enfin, tu crèves dans le jeu, c'est pas grave, parce que la musique, elle est cool et que tu dandines tes fesses et que tu continues, quoi. Donc, beaucoup d'amour pour ce morceau.
Bah écoute, c'est assez rigolo que tu te sois pointé avec un truc extrêmement enjoué et frais et machin, parce que j'ai fait ça aussi. Et j'ai un petit peu triché avec le principe, puisque je me suis fendu d'un morceau qui n'est pas d'un jeu qui vient de sortir, mais d'un jeu auquel j'ai joué il y a pas longtemps. C'est le jeu qui s'appelle Elemental, avec un 4 à la place du A. Donc il y a un petit jeu indé comme j'en fais plein, qui sont des petits jeux un petit peu écolo, hippie, tout ça. Donc c'est ce genre de jeu avec quasiment pas d'ennemis, d'ailleurs pas d'ennemis du tout, et pas mal de challenges quand même, et surtout beaucoup de fraîcheur dans le graphisme et dans la musique. Et on s'écoute tout de suite un morceau composé par Mindtree, donc qui a composé toute la BO. Le morceau s'appelle Paxton, et vous allez voir, c'est tout doux, tout agréable, et c'est pile poil comme on aime. We'll be right back. Pas sous les rires d'enfants et les glockenspiel et les petits bruits de mécanique, j'ai quand même réussi à vous planquer du wop wop de dubstep, donc je suis assez fier de moi. C'était donc Paxton du compositeur Mindtree, et donc c'est sur la bande originale du jeu Elemental.
Si je me trompe pas, Mindtree, donc c'est un Australien qui s'appelle Mitchell Nordin qui a un chouette album à côté.
C'est ça, il a fait pour l'instant un seul album. D'ailleurs, dans cet album, il y a quelques morceaux qui ont été repris dans la BO d'Elemental. Et l'album s'appelle Our Identities Lie in Glow Sticks. Ce que j'aime dans ce morceau, c'est qu'il a un petit côté Ezekiel, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Et en plus, on sent bien le timing, parce que c'est un niveau timé dans le jeu, avec beaucoup de rebondissements. Et on sent vraiment chaque partie du niveau qui se déroule dans le morceau, en fait. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et donc, je voulais le ramener aujourd'hui. Voilà.
Oui, on va un peu se répéter vu que c'est la première, mais après les deux morceaux d'actu, on passe au plus gros morceau effectivement, où il y aura un peu de tout. Forcément, on va essayer de faire plaisir à tout le monde, on va d'abord essayer de se faire plaisir à nous. Mais voilà, vous allez aussi bien voir du symphonique que de la chiptune. Et d'ailleurs, on va commencer direct avec de la chiptune en écoutant le thème d'intro du jeu des Tortues Ninja sur NES. C'est parti. C'est Noël en 1989, tu viens de récupérer ta NES avec le jeu des Tortues Ninja, déjà genre waouh putain c'est trop cool. Et là tu lances le jeu et t'as ce morceau là ultra vénère, ultra épique qui dit bon bah c'est bon maintenant tu vas le taper quoi.
Ce que tu sais absolument pas, c'est que t'as en face de toi un des jeux les moins permissifs de l'époque et les plus redoutable quand t'es gosse, quoi, c'est terrifiant.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas fait l'affront de passer la musique du niveau de l'eau qui aurait créé des crises de panique un peu partout, et qu'on s'est concentré sur le thème principal, même si j'ai un amour aussi particulier pour le thème des boss, qu'on va peut-être vous repasser un de ces quatre.
Et pour ouvrir une pastille qui va revenir assez souvent, ça va être la pastille de l'emmerdeur qui a trouvé le sample autre part dans un morceau hors jeu vidéo. Et donc j'invite les amateurs de Queen à se réécouter Stone Cold Crazy, dont le riff est quasiment... Je pense qu'il y a un gros emprunt de ce côté-là.
Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que la parenté de ce morceau, hein, non pas de Stone Cold Crazy, mais du thème principal des Tortues Ninja, est assez brumeuse, puisqu'il y a une sorte de guerre de compositeurs sur qui a composé le morceau. Apparemment, on resterait sur Jun Funahashi, mais voilà, ça reste encore un peu trouble.
C'est vrai qu'on est quand même tombé carrément sur des articles sur le sujet où ça se dispute sur Internet, ce qui est assez rare finalement.
Il y a des gros bails.
Et du coup, je reprends la main, et puis on arrête un peu le 8-bit, et puis on revient sur des trucs un petit peu plus actuels, parce qu'il y en a marre, maintenant. Donc on va partir sur Strike Suit Zero, qui est un jeu qui est sorti l'an dernier, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Dont la musique est composée par Paul Ruskay, qui est Monsieur Homeworld, qui, à part avoir une superbe moustache, est aussi Monsieur Homeworld, et a su imposer une espèce d'ambiance de ouf à toute la saga. Et on se lance tout de suite, le thème principal de Strike Suit Zero. Pas me dire que Paul Ruskay n'a pas regardé Battlestar Galactica avant de composer ce morceau, ça me paraît évident de chez évident, puisque Strike Suit Zero est un space opéra dans lequel on pilote un super mecha de la mort, et vu que les mechas c'est plus de l'influence japonaise, il s'est entouré et il a travaillé avec donc Kokia, qui est une chanteuse japonaise qui tourne pas mal en France, qui a manifestement une jolie carrière. Et j'aime beaucoup en fait le mélange des influences, le côté Battlestar Galactica avec des espèces de corps, des trucs ethniques, et puis l'électro par-dessus, sans wob wob, ce qui est plutôt pas mal.
Pour une fois.
Et puis voilà, la voix de Kokia qui colle super bien et qui illustre bien un jeu qui en fait fait s'affronter l'Orient et l'Occident. Donc j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour ce thème. Et du coup je garde la main avec un second morceau... ramené par mes soins, un truc qu'on était quasiment sûr de placer dans une des premières émissions, on a décidé...
C'était obligatoire.
Voilà, on a décidé d'y aller directement sur la première. Donc Donkey Kong Country, je pense que tout le monde se souvient du fait que c'était un des seuls jeux de l'époque à avoir des niveaux aquatiques aussi agréables, avec une aussi belle musique. Donc on s'écoute l'aquatique ambiance de Donkey Kong Country. Thank you. C'était donc Aquatic Ambiance sur la BO de Donkey Kong Country sur Super NES, composé par David Wise, qui est un petit peu Monsieur Donkey Kong chez Rare, anciennement Rareware. Mais c'est aussi Monsieur Marble Madness, ce qui est quand même une jolie ligne sur le CV, faut bien le dire.
Et la BO de Battletoads aussi, qui avait le thème de pause le plus épique de tous les temps. Ça, c'est encore une autre histoire.
C'est vrai que tu me l'as fait écouter pendant qu'on préparait, c'était assez cool. Et bah, du coup, depuis le monsieur a quitté Rare, mais pendant qu'on faisait l'émission, pendant qu'on préparait l'émission, on s'est rendu compte qu'il était de retour sur Donkey Kong pour le prochain Donkey Kong Returns qui s'appelle Tropical Freeze.
Ouais, sur Wii et 3DS, je crois, ouais.
C'est ça.
J'aimerais pouvoir annoncer un changement drastique d'ambiance, mais pas tant que ça finalement, puisque là on va s'écouter le thème principal de Bionic Commando Rearmed par Simon Wiklund. De changement d'ambiance en rigolant, parce qu'en fait c'est plus ou moins le seul morceau calme de toute la BO de Bionic Commando Rearmed, puisque la spécialité de Simon Wiklund, c'est de faire du gros boom boom qui tape un peu dance floor avec des sonorités chiptune. Le reste de la BO d'ailleurs est assez fou, on en passera sûrement. Et donc là c'est tout simplement une reprise du thème original de Bionic Commando qui était composé par Harumi Fujita, dont on va vous reparler dans quelques morceaux. Et il a réussi, à mon humble avis, hein, tu me diras ce que t'en penses Gotoz, mais à recapter l'esprit original tout en amenant un truc vraiment indus et électro assez cool quoi.
Une vibe indus d'ailleurs qu'on retrouvera plus tard dans l'émission, et je pense qu'on en rediscutera à ce moment là, mais à côté de ça j'invite vraiment les gens à qui la musique a un petit peu parlé à se pencher sur la BO de Payday 2 et sur Payday 2 où on retrouve ce dont tu parlais, à savoir son amour du dance floor. Dans les moments d'action, directement, on rentre sur du dance floor assez punchy et assez cool. Ouais.
Puisqu'en effet, ouais, on avait oublié de le dire, mais il en est pas vraiment à ses premières BO, hein, le père Vic-Lund, puisqu'il avait fait donc les BO de Bionic Commando Rearmed 1 et 2, celle de Street Fighter 3.3 Online où il y avait plein de remixes du jeu. Puis après, effectivement, il est parti chez Starbreeze en 2011 pour faire les BO de Payday 1 et 2, effectivement.
Et pour le coup, on va vraiment changer d'ambiance, puisqu'on va passer sur une BO que beaucoup de joueurs aiment, celle d'Okami, sortie une première fois en 2006 sur PS2, une seconde fois sur Wii en 2008.
Supérieure version sur PS2, bien évidemment.
Je suis super pas d'accord, mais c'est pas grave. Et on va s'écouter le morceau qui s'appelle The Sun Rises. We'll be right back. C'était donc The Sun Rises sur la BO d'Okami. Donc ça a été composé en 2006 par un monsieur qui s'appelle Ray Kondo, avec un H, donc pas comme Koji Kondo. C'est un morceau assez épique qui transpire le Japon par toutes ses notes, j'ai l'impression.
Entre tradition et modernité, j'ai envie de te dire.
Voilà, voilà, pour ne pas reprendre une formule bien connue. Et c'est vrai qu'on a beaucoup hésité avec Pipo sur l'utilisation peut-être d'un morceau de Tenchu qui a les mêmes caractéristiques.
Ouais.
Mais qu'on ressortira sûrement très très vite.
Ouh, alors ça, il n'y a pas de doute. Pour revenir sur Ray Kondo, il a certes composé ce morceau, mais il a bossé beaucoup en fait avec tout Capcom, puis Clover, puis Platinum, mais toujours en petite main. Enfin, il n'est jamais cité en premier compositeur, hein, toujours troisième, quatrième sur les BO. Mais il a quand même bossé sur du Devil May Cry 4, sur donc Okami bien évidemment, et sur Bayonetta. Et donc moi je suis très 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 content parce que j'aime beaucoup la BO de Bayonetta, et on en mettra... que ça te pose un problème ou non.
Et je trouve ça assez intéressant d'ailleurs que ce mec qui a l'air cantonné plus ou moins au second rôle dans les compositions de BO.
C'est raciste de dire cantonné pour un japonais.
Ah, oh, ça c'est mal. Qu'il soit finalement auteur probablement du thème le plus iconique d'Okami. Je trouve ça assez cool. Et d'ailleurs, je vous invite à chercher avec vos petites mains sur YouTube la reprise 8 bits de ce thème qui est assez fantastique.
Ainsi qu'une autre reprise qui est celle de Marvel vs Capcom 3, sorte de relecture électro-cracra de ce morceau qui est finalement, c'est un plaisir coupable quoi, elle est assez sympa aussi.
Le genre de relecture que tu adores.
Tout à fait.
On parlait d'Harumi Fujita tout à l'heure à propos de la BO de Bionic Commando, puisque c'est elle qui avait composé le thème principal repris par Viclone sur Rearmed. On va reprendre un de ses thèmes, celui de Gargoyle's Quest sur Game Boy, qui est sorti en 1990. Et c'est le thème du premier niveau qui s'appelle Demon Border. Gargoyle's Quest me détestait de là où ils sont parce que c'est le thème du premier niveau et que le premier niveau on avait déjà bien du mal à le passer à l'époque parce que
il y avait que le premier niveau en fait dans le jeu.
Oui, d'ailleurs je pense n'avoir vu que le premier niveau. D'ailleurs le jeu a une dimension RPG et personne ne l'a jamais vu parce qu'il fallait dépasser le premier niveau.
Voilà.
C'était donc Harumi Fujita pour Gargoyle's Quest sur Game Boy en 1990. Elle était d'ailleurs assistée sur la BO par Yoko Shinomura qui est rien moins que la compositrice de tous les thèmes de Street Fighter 2, ce qui est quand même pas rien.
Pas rien du tout. Elle a quand même fait le motherfucking Gaël thème, quoi.
C'est ça, celui qui va avec tout.
Avec tout. Mais pour revenir très très vite sur Fujita, voilà, c'est pas vraiment une noobasse, hein, puisqu'elle nous a fait Ghost and Goblins, Gargoyle's Quest, Bionic Commando, Tic et Tac, qui avait une BO fantastique, Skyblazer, un truc mortel, on vous en reparlera un peu plus tard. Enfin voilà, juste, elle a fait quelques-uns des plus gros morceaux d'anthologie de chez Capcom à cette époque.
Et si vous repérez une espèce de ressemblance entre ce thème et celui de Ghosts'n Goblins, c'est pas vraiment un hasard, puisque Gargoyle's Quest est un spin-off de Ghosts'n Goblins, dans lequel en fait on incarne Red Arémer en...
Firebrand
de chez nous, Red Arémer au Japon je crois, qui est en fait l'antagoniste du chevalier Arthur de Ghosts'n Goblins. Voilà.
Après un petit village dans les Carpates avec des zombies et des monstres volants, on va partir directement dans le cosmos, hein, parce que rien ne nous arrête, pour The Illusive Man sur la BO de Mass Effect 2, composée notamment par Jack Wall. Man, donc morceau assez planant qu'on entendra à la fin de chaque mission de Mass Effect 2, qui est un peu l'écran du briefing, enfin du débrief plutôt, de chaque mission. Et on l'entendra aussi au moment où on discute avec donc le fameux Illusive Man, le puppet master derrière tout le bordel de Mass Effect 2, joué par Martin Sheen, si je me trompe pas.
Oui, c'est tout à fait ça, Martin Sheen, donc qui double The Illusive Man. D'ailleurs, j'ai jamais passé sur la VF, tellement la VO de Martin Sheen est juste fantastique. Alors bien sûr, on a mentionné Jack Hall, mais comme quasiment sur toutes les BO de Mass Effect, il n'est pas tout seul. Il y a toujours un pool de plusieurs compositeurs. Donc là, il y a Jack Hall, évidemment, Sam Ulick, David Cates et Jimmy Hinson. Jimmy Hinson qui a eu une place beaucoup plus importante sur les DLC de Mass Effect 2 et aussi sur Mass Effect 3. Et c'est le moment de l'emmerdeur de service, puisque le morceau a encore des inspirations sur autre part que sur le jeu vidéo. Donc bien sûr, on retrouve du Blade Runner, ça paraît assez évident, mais les compositeurs sont assez clairs sur le fait qu'ils se sont, comme beaucoup de gens manifestement, inspirés du travail de Tangerine Dream, et particulièrement d'un morceau qui s'appelle Love on a Real Train sur la BO du film Risky Business. Donc je vous invite à écouter parce que c'est un excellent morceau. Vous pouvez même les mettre côte à côte, c'est assez intéressant.
On arrive à mon petit favori de cette première émission, un de mes petits favoris, en fait je crois que j'ai quasiment que des petits favoris. C'est le thème de Delta sur Commodore 64 qui a été composé par Rob Hubbard, à ne pas confondre avec Ron Hubbard qui est le patron de l'église de la Scientologie, parce que je fais souvent l'erreur.
Et d'ailleurs on invite les auditeurs qui seraient familiers du travail du compositeur Philip Glass, qui travaille plutôt sur le cinéma, à bien tendre l'oreille, parce que s'ils connaissent bien son œuvre, ils devraient retrouver un motif plutôt très connu.
Donc, qui a œuvré, enfin qui est mythique hein, sur la scène Commodore 64 entre autres, qui a fait notamment International Karate, Saboteur 2, enfin du très 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 lourd à l'époque.
C'est vrai que c'est, je pense, un nom sans lequel la scène Commodore 64 aurait été beaucoup moins jolie, parce qu'on se souvient de beaucoup de thèmes, plus que de jeux maintenant.
C'est vrai.
Enfin, nous, faut dire qu'on est jeunes, pas comme notre ingé son.
On vous demandait juste avant de lancer le morceau de tendre l'oreille, surtout si vous connaissiez Philippe Glass, puisque le thème de Delta est tout simplement une repompe éhontée de la BO du film Koyaanis Katsi, qui avait été composé par Glass en 83. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a un orchestre live qui a repris le thème de Delta en 2006, et bizarrement, ça ressemble presque plus au thème de Koyaanis Katsi par Philippe Glass qu'à Delta.
On va rester sur des noms qui parlent aux joueurs un peu plus âgés, ou en tout cas qui sont restés sur le PC, avec un morceau qu'on retrouve sur la BO de Command & Conquer en 1995, qui s'appelle Acton Instinct, et qui a été composé par un mec qu'on connaît bien parce qu'il a bossé sur Dune 2, entre autres choses, qui s'appelle Frank Klepacki.
Mais t'avais dit qu'on ferait Klepacki.
On va lancer le morceau.
Acton Instinct sur la BO de Command & Conquer par ce gros douchebag de Frank Klepacki, puisqu'il suffira d'aller sur son wiki pour voir des photos où il ressemble, on peut le dire, absolument à rien.
C'est un peu ça, oui.
Il a un col en léopard sur sa veste, des lunettes de soleil absolument improbables, il se met des halos rouges autour des mains pour faire genre il a des pouvoirs dans les photos, c'est ridicule, mais ça n'empêche que c'est un mec qui a beaucoup de talent.
Bah, il a du talent et puis surtout du vécu, puisqu'il a rejoint Westwood à l'âge de 17 ans. Où il a composé énormément de BO chez eux et c'est devenu Monsieur Command & Conquer à partir de l'âge de 22 ans, ce qui est assez honorable je trouve. Et on le retrouvera aussi sur la BO de Blade Runner, toujours par Westwood, et sur la BO d'un jeu que j'aime bien et je pense qu'on essaiera d'y revenir si Pipo est gentil avec moi et qu'il me laisse le faire.
Ouais, même si je pense que t'es le seul à l'aimer, mais vas-y.
J'ai beaucoup d'amour pour le jeu Nox et je l'assume.
Ah mais t'assumes absolument ce que tu veux, puisque de toute façon ce qui arrive là aussi, il va falloir mine de rien qu'on l'assume un peu, parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est le thème du combat de boss dans Ace Combat Zero The Belka Noir qui s'appelle tout simplement Zero. We'll be right back. voilà, ça, c'est un morceau qui a des couilles. Oh. Franchement, mais sans déconner, qui se dit à un moment, pour un jeu d'avion, je vais mettre des chœurs genre l'armée rouge, je vais mettre une chanteuse lyrique, plus tiens, j'avais une guitare flamenco qui traînait par là, j'avais des castagnettes. Qui s'est dit on va mélanger tout ça et en fait ça va être juste un des meilleurs morceaux de fou. C'est Keiki Kobayashi qui tout bêtement bosse sur la série Ace Combat chez Namco depuis Ace Combat 5 et qui a bossé sur Tekken 4 et 6. Qui sont vraiment pas les meilleurs d'ailleurs. Mais voilà, donc on doit ce morceau de fou à Keiki Kobayashi.
Voilà, un morceau que tu m'as fait découvrir, alors que moi j'ai pas du tout joué à Ace Combat 0. Mais du coup, pour préparer l'émission, on a re-regardé ensemble la séquence, donc la dernière mission du jeu, qui est où ça, cette musique part. Et c'est incroyable de se rendre compte à quel point je m'étais imaginé une mission bien plus épique que ça, et à quel point le morceau a beaucoup plus d'envergure que ce qu'il est en train de couvrir en fait. Mais il y a quand même une vraie logique, malgré cette espèce de fourre-tout incroyable dans ce morceau, c'est que c'est une espèce de... d'aboutissement de la construction musicale, enfin de l'histoire par la musique. C'est-à-dire que dans le jeu, on va avoir tous les côtés épiques pendant l'émission, et tous les briefings et tous les retournements de situation scénaristique, ça va être sur de la guitare, ça va être sur des petites castagnettes, ça va être sur des trucs beaucoup plus...
posés, finalement.
Voilà, posés. Et là, en fait, c'est ce dernier morceau qui vient marier les différentes influences et expliquer que voilà, là, c'est en gros, c'est le dénouement autant du jeu que de l'histoire.
Oui, parce qu'on peut voir même un truc assez cool dans la séquence de jeu, c'est que... Le joueur parle avec sa némésis en fait finalement, ou son némésis, sa némésis parle en tout cas avec son adversaire à travers les micros,
voilà, le micro bon classique du dogfight où on discute avec son Dark Vador perso,
voilà,
quoi,
par avion interposé,
c'est ça. Et voici venir l'heure de mon petit caprice personnel où j'ai carrément été absolument intransigeant et j'ai juste exigé que ce soit là. On va donc s'écouter le morceau Gambling Glottis sur la BO de Grim Fandango. Pas bien là, smoking blanc, petit cigare, petit verre de whisky, on est à la fraîche et pourtant à ce moment-là de l'aventure dans Grim Fandango, le héros Manny Calavera n'est pas dans une super position dans le sens où son meilleur ami est tombé dans l'alcool et dans le jeu et il faut qu'il aille le récupérer dans un espèce de bar très select. Et on entend bien la déglingue en fait dans ce morceau, ce côté vraiment là c'est en train de mal virer pour lui. Et donc c'est donc le morceau s'appelait Gambling Glottis sur Grim Fandango qui est sorti en 1998. composé par Peter McConnell, qui est un habitué de LucasArts depuis longtemps, avec ses acolytes Michael Land et Clint Bajakian, avec qui ils ont travaillé tous les trois sur certains Monkey Island. Mais Peter McConnell a aussi une petite carrière solo chez LucasArts.
Bah oui, puisqu'il a bossé sur Full Throttle, bon bien évidemment Grim Fandango puisqu'on vient de l'écouter, mais aussi sur Full Throttle, ainsi que Psychonauts, qui m'a pas laissé, j'avouerais, des souvenirs impérissables au niveau de la BO. Peut-être qu'il faudrait qu'on la réécoute d'ailleurs, parce que...
Et qui sait, peut-être en la réécoutant, vous le retrouverez dans une de nos prochaines émissions. Faut aussi dire que McConnell a clairement avoué son amour pour la musique de Mancini, qui a composé entre autres choses le thème de La Panthère Rose, et je pense que vous serez d'accord pour dire que, évidemment, on sent bien l'amour.
Alors Mossieu a fait son petit caprice, donc je vais faire aussi le mien, avec un thème de Castlevania Symphony of the Night qui s'appelle The Tragic Prince. Attention, ça fait un peu mal.
We'll be right back.
me demande vraiment ce qui m'a pris de vouloir monter une émission de musique de jeux vidéo avec un fan d'X-Japan, mais vas-y, je t'écoute.
Mais c'est tout simplement parce que tu voulais travailler avec des gens qui ont du goût. Donc Castlevania Symphony of the Night, extraordinaire BO, qui mélange plein de styles différents, composé par Michiru Yamane, qui est juste Madame Castlevania chez Konami, hein, qui a fait tous les épisodes depuis Bloodlines, sauf les tout derniers Lords of Shadow, puisque c'est fait en Espagne. Elle a aussi bossé sur Rocket Knight, par exemple, tous les Sparkster, les Rocket Knight, Skullgirls récemment. Et ce morceau, ouais, il a quelque chose, parce que bon, il a cette espèce de côté hard rock 80 bien dégueulasse, avec ses solos qui durent 25 minutes. Moi, il y a un truc qui me parle là-dedans, et surtout dans le jeu, en fait, il correspond à un vrai pic de difficulté, parce que c'est quand on arrive dans la Clock Tower, qui est généralement l'endroit horrible, où il y a de la plateforme relou, où il y a des méduses qui peuvent te transformer en pierre, etc. Et à ce moment-là, où tu commences à vraiment en chier, ben, t'as des grosses guitares qui partent et tout, genre... On n'est plus là pour déconner, quoi. Et ça fonctionne super bien, je trouve.
Et c'est sur cette belle déclaration d'amour qu'on aboutit à la dernière partie de l'émission, qui va être une constante, une espèce de coutume dans l'émission.
Un petit rendez-vous.
Voilà, hein, un petit rendez-vous. On va utiliser les termes qui sont d'usage. Et on va chaque mois vous donner un rendez-vous pour se dire au revoir au son d'une reprise d'un thème de jeu vidéo.
Voilà, une reprise, une cover, comme disent les gens qui les cherchent sur YouTube. En l'occurrence... Cette fois-ci, ça va être... Alors, c'est un morceau un peu honteux, mais on s'est dit qu'on pouvait... Si on la passait pas à la première émission, on la passerait jamais.
Voilà, c'est ça.
C'est un morceau qui s'appelle Metal Gear May Cry, que tout le monde a dû... Enfin, le monde entier a dû tomber dessus à l'époque de Kaza.
Voilà, à l'époque de Kaza, de Hidonki ou d'Emule. À l'époque, on voulait juste choper des OST... à bas prix et quand on met en fait sur cette espèce de mashup absolument incroyable supposément du thème de Metal Gear 2, de Metal Gear Solid 2 et du thème de Devil May Cry ou d'un thème de Devil May Cry et qui est une espèce de monstre tentaculaire musical très bizarre mais qu'on pense on pense qu'il a résidé sur beaucoup de disques durs à une époque et on espère qu'on n'est pas seul dans ce cas.
Et donc c'est bien sûr une compo à la base de Harry Gregson-Williams pour Metal Gear Solid 2, plus plutôt des ambiances d'ailleurs de Devil May Cry, je crois pas que ça reprenne un morceau particulier. Et tout ça donc est arrangé par un homme merveilleux finalement qui a fait effectivement les beaux jours de nos premiers lecteurs MP3, qui s'appelait Jared Hudson. On s'écoute ça.
donc Metal Gear May Cry, arrangé par Jared Hudson. C'est le morceau sur lequel on va se quitter, puisque l'émission se termine maintenant. Eh oui, c'est déjà fini, mais on espère vous retrouver très bientôt, normalement le mois prochain.
Si tout se passe bien, si on se fait pas virer d'ici là.
On en profite pour remercier Radio 01 qui nous file un petit peu de place chez eux pour venir parler de musique de jeux vidéo.
Tout à fait.
Et pour remercier aussi notre intermittent, d'Outre-Quiévrin, comme on dit, puisque c'est notre cher Faskil.
Ouais.
Qui va s'occuper de monter tout ça et de rayer toutes nos petites bêtises, parce que sachez qu'on en a dit plein.
Faskil, dont vous pouvez écouter tous les lundis matins morceaux choisis sur Radio Kawa, hein, faut pas oublier. Et quant à nous, donc, c'est au mois prochain pour le prochain épisode des Démons du Midi, et puis d'ici là, portez-vous bien.
À plus, ciao.
Ciao. Remarque, remontrance ou demande en mariage, le SAV des Démons du Midi reste ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans les commentaires de l'émission.